6e et 7e demande de notre prière. Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Comme je le disais tout à l'heure, ces deux demandes sont de loin les plus difficiles et les plus controversées de toute notre prière. Je connais beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, qui se taisent au moment de ces demandes. Qui se taisent car ils refusent de penser et de professer que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve et qui nous guide vers le mal. Alors, on ne va pas régler cette histoire en 10 minutes ce matin, mais je vais partager avec vous quelques pistes en différentes étapes pour y voir un peu plus clair. Je me suis appuyée, comme pour beaucoup de demandes du Notre Père, sur une étude très fouillée du pasteur Maillot, sur le terme notamment « tentation ». Qu'est-ce que c'est qu'être tenté dans la Bible? Alors d'abord, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que veut dire le mot « tenté » ? Eh bien, il a plusieurs sens. Tout d'abord, il a un sens très commun qui veut dire essayer de faire quelque chose. Un exemple, par exemple, dans le Deutéronome, on parle d'une femme, la femme la plus délicate et la plus raffinée, celle qui n'essaye même pas de poser par terre la plante de ses pieds. Celle-là jettera un regard sur l'homme, etc. Donc là, c'est un sens très basique. Tenter, c'est essayer de faire quelque chose. Il y a un autre sens dans l'Ancien Testament qui est tester, mettre à l'épreuve. On peut citer ici l'histoire de la reine de Saba. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, cette reine, qui veut tester la sagesse du roi Salomon. Vous savez, ce roi Salomon, on le dit très sage, on dit que c'est le plus sage de tous, et cette reine est sceptique, et elle veut savoir si vraiment ce qu'on dit de lui est vrai. Alors elle va tester sa sagesse en lui posant des énigmes. Un autre sens encore, Dieu éprouve quelqu'un. Ce sens n'est pas sans difficulté. Par exemple, au moment du décalogue, vous savez, le décalogue, c'est la loi que Dieu donne à Moïse pour le peuple, les 10 commandements. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, car c'est pour vous éprouver que Dieu est venu. Pour vous éprouver. Encore un autre sens avec un rôle pédagogique. Dieu met à l'épreuve le peuple d'Israël. Vous connaissez peut-être cette histoire de l'eau amère. Le peuple traverse le désert, le peuple a soif. Et en attendant, Dieu lui donne de l'eau, mais pas de l'eau douce, de l'eau amère. Et de cette façon, le peuple est censé apprendre la confiance. Encore un autre sens, et peut-être c'est celui-là qui nous est le plus difficile, c'est dans l'épreuve d'Abraham. Ça, je crois que tout le monde connaît cette histoire. Dieu qui met Abraham à l'épreuve et lui demande de sacrifier son propre fils. Dieu appelle Abraham. Abraham répondit, « Me voici. » Et Dieu reprit, « Prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, et pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en sacrifice. » Abraham se leva de bon matin, fendit les bûches, prit avec lui son fils Isaac, et partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Vous connaissez la suite de l'histoire, au moment où Abraham va sacrifier son fils, l'ange du Seigneur lui crie, « N'étends pas la main sur lui, car maintenant je sais que tu aimes Dieu seul. » Alors vous le voyez dans l'Ancien Testament, je pense qu'il s'agit plus du mot « épreuve » que du mot « tentation ». Il n'y a que ce texte d'Abraham qui peut poser question et qui reste problématique. Il s'agit d'épreuves et ce n'est pas tellement Dieu qui cherche à avoir la preuve que l'homme est fidèle. Mais Dieu veut donner à l'homme la preuve que lui a les forces nécessaires pour avancer avec Dieu. Et ce n'est pas tant Dieu qui en sort rassuré que l'homme qui, à cause de cette épreuve, est devenu plus solide et plus apte à vivre avec Dieu. En revanche, dans l'Ancien Testament, on trouve très souvent avec le mot « tentation » une tentation de Dieu par l'homme. Ce n'est pas Dieu qui tente l'homme, mais c'est l'homme qui tente Dieu. Alors souvent on se révolte, on dit « oui, c'est pas possible, Dieu ne peut pas nous tenter », mais on oublie souvent que nous, très souvent, nous tentons Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de tenter Dieu ? Un exemple dans l'Ancien Testament, pour la sortie d'Égypte, vous savez cette histoire de l'eau amère. Au bout d'un moment, le peuple d'Israël s'impatiente. Il s'impatiente et il demande à Dieu d'incessants miracles. Donne-nous de l'eau, donne-nous des cailles à manger, à boire, fais-nous avancer. Sans arrêt, le peuple va demander à Dieu des preuves. Et là, l'homme tente Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de tenter Dieu ? C'est essayer de mettre la main sur Dieu, de s'emparer de lui et de sa puissance. C'est finalement demander à Dieu de ne plus être celui qu'il est, c'est-à-dire l'intouchable, l'indomptable, le Très-Haut, celui qu'on ne pourra jamais comprendre. Comprendre, étymologiquement, c'est prendre avec soi, parce que nous ne sommes que des humains. Dieu est tout autre. Alors maintenant, dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament va confirmer souvent ce sens d'épreuve et de tentation que nous avons trouvé dans l'Ancien Testament. Mais là, le vrai texte, la grande épreuve de la foi, eh bien c'est la croix. Cette croix est épreuve, épreuve pour notre foi. Dieu est allé jusqu'à la mort, tellement il nous aimait, jusqu'à la mort pour nous. Et comme dans l'Ancien Testament aussi, et c'est peut-être plus clair encore, comme dans le Nouveau c'est peut-être encore plus clair, les hommes mettent le Christ à l'épreuve, tout le temps. Je suis sûre que vous avez plein d'exemples qui vous viennent dans la tête. Vous savez, tous ces hommes de loi, ces hommes qui connaissent très bien la loi et qui posent sans arrêt des questions à Jésus. La loi nous dit, mais toi tu nous dis, alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Aujourd'hui, c'est Shabbat, et toi, tu guéris un homme alors que c'est interdit. Pourquoi ? Et puis, au tout début des évangiles, vous vous rappelez cette histoire de Jésus qui est tenté dans le désert par le mal. Vous vous rappelez cette histoire où il reste 40 jours dans le désert ? Et le mal vient lui dire, « Si tu es fils de Dieu, arrête ce calvaire. » Et Jésus ne se laisse pas tenter. Alors, en conclusion, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mis à part le texte avec le fils d'Abraham, ce n'est pas tellement une tentation, mais plus une mise à l'épreuve. Et la tentation vient bien plus de l'homme vis-à-vis de Dieu. Alors si on doit choisir une traduction pour cette phrase, cette demande qui fait tellement grincer les dents, peut-être qu'il faut garder plutôt ce mot « épreuve ». Père, ne nous mène pas à l'épreuve. Ne nous laisse pas tomber dans l'épreuve. Ne nous laisse pas aller vers l'épreuve. Et encore une fois, la plupart du temps, ce n'est pas Dieu qui nous met à l'épreuve, mais c'est nous qui mettons Dieu à l'épreuve. Père, ne nous laisse pas tomber dans l'épreuve. Ne nous laisse pas aller au-devant de l'épreuve. Et la demande qui suit, mais délivre-nous du mal. Alors, si vous avez été très attentif pendant les deux lectures que j'ai faites du Notre Père, dans l'évangile de Luc, il n'y a pas cette demande « délivre-nous du mal ». La prière s'arrête. Ne nous laisse pas aller au-devant de l'épreuve. Fini. Dans Matthieu, on continue. Délivre-nous du mal. Et cette demande en fait sept. Vous connaissez la symbolique du chiffre sept. C'est-à-dire sept, ça signifie la plénitude, quelque chose de parfait. Alors cette demande d'éloigner le mal de nous, eh bien ça signifie que nous renonçons à nous croire solides. Nous confessons que sans l'aide de Dieu, nous sommes incapables de nous conduire en fils. Et que sans son intervention, jamais nous n'arriverons ni à sanctifier son nom, ni à faire avancer son règne, ni à accomplir sa volonté, ni à trouver le pain pour les autres, ni à pardonner le mal que les autres nous ont fait. Sans son aide, nous ne pouvons pas croire qu'il est notre Père. Nous avons besoin sans cesse de sa délivrance. En somme, si notre Père veut que nous soyons ses enfants, il doit nous arracher au mal, car sans cesse nous en sommes des prisonniers. Alors, souvent on me dit, mais qu'est-ce que c'est le mal? Est-ce que le diable, est-ce que c'est le mal, hein, le malin? Le diable existe-t-il? Alors, vous savez que dans la Bible, le mal, et dans l'Ancien Testament en particulier, c'est la même chose que le malheur. Et c'est ce qui est en nous, en opposition au bien et au bonheur qui est en Dieu. Très simple, hein? Dieu, c'est le bien et le bonheur, et nous, nous sommes le mal et le malheur. Et pour goûter un peu de ce bien, nous avons besoin de Dieu. Le Christ est fidèle à cela. Il continue à dire que le mal est en nous et également autour de nous. Mais le mal ou le malin n'est pas le diable. Et je crois qu'il faut se garder de personnifier le mal. On l'a vu souvent représenté dans l'histoire, dans les œuvres artistiques, avec des cornes, une fourche, tout un tas de représentations. Comme s'il y avait un combat entre le dieu du bien et le dieu du mal, qui serait le diable. Bien ça, je crois qu'il faut s'enlever ces images de la tête. Un professeur nous disait, cette image m'est restée et elle est très parlante, que si nous croyons au diable, nous ne sommes plus des monothéistes. Nous sommes des polythéistes. Nous croyons en deux dieux. Dieu, notre Père, et le diable, ça fait deux. Pour nous, nous sommes monothéistes, nous n'avons qu'un Dieu, Dieu le Père, Jésus-Christ, Fils et Saint-Esprit. Et en aucun cas, il n'existe un Dieu du mal. Le mal existe, mais il n'est pas Dieu. Vous avez peut-être entendu également sur, sur France Info ou dans les journaux, le dernier livre de Duquesne qui est sorti, qui s'appelle Le Diable. Vous savez, Duquesne est un journaliste et un auteur chrétien. Il a écrit un livre sur Jésus, sur Marie. Et le journaliste à France Info, dans la chronique que j'entendais, lui demandait « Alors, monsieur Duquesne, d'après vous, le diable existe-t-il ?» Ce monsieur a eu la sagesse de dire « Non, le diable n'existe pas. » Alors, qu'est-ce que c'est que ce mal ? Eh bien, ce mal, c'est tout ce qui met des barrières. Le mal, c'est ce qui veut être puissant, celui qui veut être puissant. C'est celui qui sépare, vous savez, qui met le conflit. Le mal est ce moi, cette partie de moi, qui dans ma famille, dans mon église, en politique, ne sait ni écouter, ni comprendre, car il se croit tout puissant, et il croit que les autres ne doivent pas être ni écoutés, ni compris. Ces puissances de mal agissent en moi et par moi, autant qu'autour de moi, et elles sont un filet qui me tient du dedans et qui me piège au dehors. J'espère que je ne vous casse pas trop le moral ce matin. Et le sens de cette demande s'éclaire maintenant. Délivre-nous du mal. C'est demander à Dieu, délivre-moi de moi. Délivre-moi de ce moi qui m'oppresse. Arrache-moi à ce moi pour me ramener vers toi. Arrache-moi à ce petit Dieu que je crois être ou que je veux être. Fais-le toi, mon Dieu, car moi je suis incapable de le faire tout seul. Et ce cri de détresse devient alors un vrai cri d'espérance. Car si je confesse que cela m'est impossible, je confesse en même temps que cela est possible à Dieu. Vous savez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu, mon Père, peut m'emmener à être digne. Il peut m'emmener à faire tomber les barrières que je construis. Ce cri signifie aussi « Arrache-moi à toutes ces forces qui animent le monde. » Alors cela ne veut pas dire « Arrache-moi à la condition humaine », mais à ce qui, dans la condition humaine, l'empêche d'être vraiment humaine. Arrache-moi à tout ce qui m'emprisonne et qui m'encercle. C'est un cri d'espérance. Un cri où nous affirmons que l'œuvre du Christ, lui qui a réussi à chasser les démons, à expulser ses forces, se poursuit en nous et dans le monde. Pousser ce cri revient à croire que l'œuvre du Christ peut toujours nous débarrasser. Non seulement de notre mal intérieur, mais du mal extérieur, et nous faire accéder à une vraie liberté. Jésus-Christ, lui seul peut nous faire sortir de nos fatalités, de nos paralysies et de nos peurs. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Voilà pourquoi chaque jour, et c'est Jésus-Christ qui nous l'a appris, nous avons besoin de répéter, « Père, délivre-moi du mal. Arrache-moi du mal. » Et cette demande, bien sûr, renforce la précédente. Nous demandons à Dieu, « Ne nous fais pas passer par des chemins trop difficiles. Ne nous laisse pas aller vers l'épreuve, car le mal nous tient. » Et nous sommes des hommes fragiles, nous sommes enchaînés, nous avons besoin de toi. Nous sommes des pèlerins fatigués, que la traversée du désert parfois éprouve au-delà de nos forces. Et puisque de toute façon, il nous faut traverser ce désert un jour ou l'autre dans notre vie. Permets, Seigneur, que ce soit par une route qui ne soit pas trop rude, ni semée de trop d'embûches. Et s'il nous arrivait, Dieu notre Père, de glisser hors de ta main, nous savons, nous croyons que tu nous tiendras et que tu nous arracheras du mal. Vous vous rappelez que dans la Bible, le mal et le malheur sont confondus. On pourrait aussi prier de cette façon. Père, arrache-nous au malheur. Père, arrache-nous au malheur. Ne nous laisse pas aller au-devant de l'épreuve et arrache-nous du malheur. Père, ne nous laisse pas aller au-devant de l'épreuve et arrache-nous du malheur. Amen.